Bonjour et bienvenue, je suis Nour et vous écoutez En quête de soi. Dans ce podcast, je vous emmène avec moi à la rencontre d'invités ayant un mode de vie et une perception du monde sortant des codes conventionnels. Entre engagement écologique, spiritualité ou encore développement personnel, le but de ce podcast est d'entamer un voyage intérieur afin de se construire une vie alignée qui nous ressemble. Ces témoignages sont une exploration de soi à travers les autres, permettant de récolter des indices et de faire germer de nouvelles idées. Alors, si cela vous tente, on se donne rendez-vous tous les mois pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer. Pour ce nouvel épisode d'Enquête de soi, je suis très heureuse d'accueillir Marie sur le podcast. Après avoir travaillé dans l'humanitaire, Marie est aujourd'hui professeure de yoga. Elle a créé avec son compagnon l'association Chival, réunissant la permaculture, le yoga et les animaux. Lors de notre échange, Marie me donne des astuces concrètes pour être plus engagée au quotidien. Nous avons aussi évoqué l'intuition, la nécessité d'écouter ses besoins, la nourriture végétale, mais aussi la pratique et les valeurs du yoga. D'ailleurs, Chival est un havre de paix au cœur de la nature, où j'ai eu la chance de me rendre car des stages de yoga y sont organisés d'avril à octobre. Vous pouvez retrouver le planning des stages sur leur site www.chival.fr. Marie, bienvenue et merci d'être avec moi. Je suis vraiment très heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Pour recontextualiser un petit peu, on s'est rencontrés donc, il y a presque un an lorsque j'avais fait un stage de yoga à Chival avec toi et ton compagnon. C'est vraiment une expérience qui m'a beaucoup marquée et qui a d'ailleurs inspiré ce podcast. Donc, c'est assez spécial pour moi de te recevoir aujourd'hui. Donc, merci beaucoup.
Bah, merci beaucoup, Nour, pour cette invitation. Et je suis très heureuse aussi de participer à ce podcast et d'échanger avec toi.
Alors, je vais commencer par une première question que je pose à chacun de mes invités. C'est une façon un petit peu différente de se présenter. Donc, est-ce que tu peux me parler de tes valeurs? Quelles sont les valeurs qui te définissent et qui sont importantes pour toi?
Alors, si je devais choisir des valeurs, je choisirais la compassion et l'action en même temps. Parce que c'est vrai que quand on se rend compte un petit peu autour de soi de l'humanité ou des animaux, de la souffrance, en fait, en général, on peut soit vraiment, se morfondre, vraiment être pas très bien, dans la tristesse, ou bien on peut se dire, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, même individuellement. Et du coup, pouvoir agir et donc mettre en place ses actions pour être vraiment en cohérence en fait avec ses convictions profondes. Voilà, les mettre au service. Donc okay. Voilà les valeurs principales que je tends à suivre.
Ouais, c'est des super valeurs. Merci beaucoup. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours? Comment t'en es arrivé à être prof de yoga? Quel a été ton cheminement avant ça? Je sais que tu as travaillé dans l'humanitaire, mais est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus?
Oui, j'ai voulu travailler dans l'humanitaire justement pour mettre au service en fait ce besoin d'aider en fait de vouloir contribuer. J'ai voyagé en Inde pendant 5 années. J'ai travaillé sur différents projets avec des projets autant humanitaires qu'avec les animaux, que des projets environnementaux. Et en fait, j'ai découvert le yoga. Voilà, tout le monde m'avait dit tu verras, tu essaieras le yoga en Inde. Je me suis dit jamais de la vie, ça. Voilà, j'avais pas du tout le profil en fait pour pratiquer. Et au final, voilà, j'ai rencontré le yoga et au début, ça a été une rencontre plutôt dans la dimension physique, voilà, qui m'a interpellée. Et ensuite, je voyageais, j'avais pas de pied-à-terre particulier, j'étais entre les voyages humanitaires. Et je suis allée à Paris au salon du yoga, tout simplement. J'ai fait un atelier, en fait, avec Jean-Louis et Francis Gianfermi, qui sont devenus mes maîtres. Et en fait, à ce premier cours avec eux, j'ai eu vraiment une très, très forte intuition que c'était ça que je devais faire et je devais pratiquer avec eux. Donc après, j'ai continué à voyager. Je retournais à Paris quand je pouvais. Et puis, il s'est trouvé que j'ai rencontré mon compagnon à Paris. On s'est installé. Et donc, j'ai pu suivre, en fait, leurs cours, leurs enseignements pendant plusieurs années avant de me former avec eux. Et du coup, c'est ça qui m'a vraiment lancée, en fait, sur la route du yoga. Après, j'ai eu d'autres rencontres aussi, mais c'est vraiment la rencontre clé qui m'a poussée, en fait, à pratiquer davantage.
Et pourquoi tu dis qu'au début, tu n'étais pas vraiment destinée à faire du yoga?
Parce que j'avais pas du tout, j'en avais jamais pratiqué. J'étais plutôt de nature relativement stressée, j'avais jamais imaginé qu'on pouvait travailler son esprit. En fait, je voyais qu'il y avait des disciplines corporelles, mais en fait, toute la dimension spirituelle, elle était relativement étrangère. C'était pas quelque chose qui était présent ou dans ma famille ou dans mon cercle, dans mon entourage. Donc, j'avais pas vraiment d'exemple en fait pour me montrer cette dimension-là. Et donc, c'est pour ça que je pensais pas être attirée par ça. Et au final, ça s'est fait extrêmement graduellement. Et le yoga est très vaste. Et en fait, c'est vraiment un cheminement progressif. Donc voilà, étape par étape, j'ai pu découvrir davantage et c'est ce qui m'a poussée de donner envie de me former et surtout de le partager puisque ça m'a apporté tellement de richesse que je me suis dit, bon, clairement, il y a toute la dimension humanitaire, la dimension d'aider concrètement, physiquement, voilà. Mais il y a aussi tout le développement, en fait, de son être qui peut contribuer au collectif aussi, en même temps. Voilà.
Ouais. Et du coup, toi, quelle est ton approche justement du yoga? Parce que c'est vrai que moi, avant de faire ce stage, en l'occurrence, je connaissais un petit peu l'histoire, mais j'ai un peu redécouvert avec toi toute la profondeur qu'il peut y avoir derrière les différents types de pratiques, la philosophie, etc. Enfin, c'est assez incroyable. Et toi, comment tu l'abordes concrètement?
Bah, concrètement, en fait, quand on regarde par exemple, le texte fondateur, les Yoga Sutras, donc, ça met en avant les 8 piliers du yoga. On en a parlé, du coup, pendant la retraite. Donc, on voit que la base du yoga, en fait, c'est pas les postures, c'est pas la méditation. C'est, en fait, l'action dans le monde. C'est l'action altruiste tournée dans le monde, c'est-à-dire un peu comme une charte éthique où on retrouve, du coup, bah, la non-violence, la vérité, le non-vol, la modération et la non-possession. Donc, c'est des valeurs assez fondamentales, en fait, qu'on retrouve dans beaucoup de courants spirituels, mais qui sont, en fait, la base du yoga. Et donc, rien que si on applique juste ça, on est aussi des yogis et des yogines. On n'est pas obligé d'être forcément en posture. Donc, rien que ça, ça implique bah, de potentiellement modifier son mode de vie, son mode de pensée, comment on consomme, comment on interagit avec les autres, comment on se positionne dans la société, où est-ce qu'on vit, etc. Donc, c'est ça aussi qui a chamboulé et qui m'a amené, en fait, ici à vivre dans la forêt. Puisque ça m'a amené à chercher davantage de cohérence en fait avec ces valeurs. Donc pour moi le yoga c'est quelque chose qui se vit tout le temps. C'est pas uniquement une pratique sur le tapis. On revient en fait à la compassion puisqu'en fait la valeur primaire c'est la non-violence. Donc c'est comment appliquer cette compassion dans sa vie quotidienne. Voilà, pas forcément quand on a le temps, mais on peut être simplement dans le bus, simplement aider quelqu'un à traverser, mais vraiment être conscient en fait des êtres autour de nous. Et en fait, être au service de ses propres besoins, mais aussi au service des besoins des autres. Donc, c'est trouver cette harmonie, voilà, entre soi et du coup, les autres êtres. Voilà. Prendre soin un maximum.
Ouais, bah, c'est hyper beau, je trouve. Et c'est clair que ça va vraiment au-delà de l'image qu'on a du yoga où c'est juste les poses. Et ça, je trouve que c'est vraiment important de le rappeler. Parce que moi, enfin, pareil, au début, comme toi, on me disait souvent qu'il fallait faire du yoga parce que j'étais stressée. J'étais là, oui, du yoga, c'est pas ça qui va me détendre. Et en fait, petit à petit, je découvre ça au fur et à mesure. Et c'est vrai que c'est assez magique. Quand on le fait régulièrement, ça débloque pas mal de choses.
C'est ça. Oui, parce qu'en même temps, je dénigre pas du tout les postures et les respirations et l'immédiation. Oui. Ça, c'est aussi extrêmement fondamental. Évidemment que c'est en passant par le corps à partir de notre véhicule qu'on va pouvoir chercher en profondeur. Déjà, pouvoir s'observer. Donc, si on veut pouvoir prendre soin des autres, il faut aussi pouvoir avoir cette capacité en fait, d'observation, de discernement, de clarté. Donc, en fait, en passant par le corps, par le souffle, on apprend un petit peu à s'appréhender, en fait, à se connaître. Et c'est un chemin qu'on passe par soi, mais pour aller vers les autres, en fait. Mais la pratique posturale, autant que méditative, est tout autant fondamentale, bien entendu.
Et du coup, qu'est-ce que tu recommanderais de faire au quotidien ou de manière générale, je suppose qu'il n'y a pas vraiment de règles, mais combien de pratiques par semaine, quel type de pratique, quel type de yoga tu t'associerais ensemble
Je pense qu'on a chacun et chacune un chemin à travers le yoga qui peut être différent. Je pense que c'est important peut-être au début, en tout cas, d'avoir une personne qui nous inspire pour pratiquer avec, qui va nous emmener vers un certain style, entre guillemets, de yoga. C'est, à la base, c'est tout la même chose. Mais la personne qui va l'amener, elle peut nous amener dans différents états. Personne qui a touché à l'état de yoga, elle pourra nous amener dans l'état de yoga. Il y a une différence entre faire une posture et être dans un état de yoga, qui est l'état d'équilibre, en fait. Mais qui est un état physiologique qu'on peut accéder par des postures et des respirations. Mais pour ça, il faut avoir quand même cheminé soi-même pour emmener, en fait, d'autres personnes. Donc, je pense que c'est important au début d'être accompagné, d'essayer vraiment plusieurs cours, plusieurs styles. Même si on fait que du hatha, essayer vraiment de nombreux professeurs féminins, masculins, etc. Vraiment tout essayer jusqu'à ce qu'on ait un déclic. Ou pas forcément, mais vraiment aller vers les choses qui nous appellent et ensuite creuser vraiment dans ces choses-là. En même temps, pour être en cohérence avec le yoga, comme on discutait voilà du mode de vie, etc., on voit que on a envie de faire des efforts dans son quotidien. On nous parle souvent prendre des douches plus courtes ou de réduire l'électricité, etc. Mais on voit que dans le concret, ce qui est le plus efficace au-delà même du minimalisme, du zéro déchet, du local, ça va être la nourriture végétale, en fait. Au final, c'est vraiment de pouvoir être en cohérence avec cette notion aussi de non-violence pour tous les êtres Et donc, ce serait en fait tout simplement d'éviter cette souffrance pour les animaux et du coup de consommer des produits d'origine végétale, d'inclure ça en fait dans son quotidien parce que ça change pas grand-chose, mais ça peut changer beaucoup pour la planète et puis pour les animaux directement.
Oui, bah ça c'est sûr. Bah justement, ça m'amène à une question. Parce que je sais que tu es très engagée et du coup tu vis d'une manière hyper en accord avec la nature, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vivent en ville pour moi, et c'est pas toujours évident de savoir par où commencer pour être plus engagée et surtout plus respectueux de la nature. En plus, on est vachement déconnecté de la nature parce qu'en ville, c'est pas évident d'accéder. D'aller se promener en forêt, c'est compliqué, etc. Et on est souvent coupé de tout ça. Et je sais que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui aimeraient être plus engagés, faire beaucoup plus de choses, mais c'est pas évident de savoir par où commencer. Est-ce que les petits gestes, c'est vraiment si efficace, etc. Et comment garder un contact avec la nature et avec soi-même, quoi. Comment rester ancré quand on est coupé un petit peu de tout.
Ouais, je vois. Je pense que au départ, ce qui est bien, c'est de s'informer, c'est en fait de chercher les infos. Il y a des documentaires vraiment fondateurs, comme par exemple Le discours le plus important de votre vie, Gary Oski, il y a Cowspiracy, il y a Veganalytic aussi sur Facebook, qui donne en fait les stats sur vraiment comment réduire son taux de souffrance. Donc en fait, on voit vraiment que entre par exemple le local ou le zéro déchet, ou la nourriture végétale, on voit qu'en fait la nourriture végétale, elle arrive vraiment en tout premier. Donc déjà, si on peut appliquer ça, c'est déjà au niveau individuel, c'est déjà super. Ensuite, au niveau collectif, on se rend compte que on a un certain spectre au niveau individuel. Au niveau collectif, ce serait peut-être s'intéresser aussi à la politique, parce que le yoga, c'est aussi politique. Donc par exemple, lire les programmes, essayer de regarder un petit peu moins la télé, de chercher les infos en fait sur d'autres plateformes, d'essayer de se renseigner en fait sur tous ces domaines et de voir en fait par A plus B avec les études scientifiques, interviews comme ça, etc., voir comment en fait réduire son taux de souffrance. Plutôt que forcément de prendre un conseil de quelqu'un, de se dire « Ah, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ?» je vais vérifier moi-même. Donc, je vais regarder ces documentaires et je vais m'impliquer et je vais faire ces choses du coup qui apparaissent comme les choses les plus évidentes en fait pour aider. Et même en étant en ville, comme quand tu parlais de reconnexion à la nature, je pense que la nature, elle est partout, elle est en nous en fait. Donc, c'est plus cultiver cet état. Si ça nous facilite évidemment quand on est au milieu de la forêt, on peut cultiver par la méditation cet état intérieur en fait que ça va amener et le cultiver qu'on vive en ville ou pas. Mais c'est un travail du coup, ça c'est le travail intérieur et travail extérieur après dans les actions. Voilà.
Ok, et du coup, est-ce que tu veux me parler de ton lieu de vie ? Je sais que vous avez rénové pour qu'il soit beaucoup plus engagé et en accord avec la nature. Comment ça s'est passé exactement votre déménagement à Nice, comment vous avez trouvé la maison, comment vous l'avez rénovée pour que ce soit plus écologique, est-ce que tu peux m'emmener un petit peu dans ce process-là?
Oui, on est toujours en cheminement. Hein. Mais c'est vrai que en s'étant rencontré à Paris, on s'est dit comment faire pour réduire en fait cette empreinte de souffrance qu'on a en consommant, en vivant tout simplement. Donc on s'est dit Alors il y avait deux options. C'était soit on partait vivre vraiment très loin, très isolé en famille. Dans un petit cocon, ou bien on faisait un lieu un peu plus proche d'une ville, mais un lieu de partage en fait, de partage des connaissances, et un lieu ouvert à tous. Et du coup, on a choisi la deuxième option. Voilà. Donc, dans cette deuxième option, on a cherché un lieu dans le sud de la France, proche d'une grande ville, et ça s'est fait vraiment notre premier jour de visite. On a visité, on a vu cette annonce 3 jours avant de descendre sur le Bon Coin, donc c'était un hasard complet. Ouais. En voyant déjà, on sentait que on l'a senti très fortement. Et puis en arrivant, il y a un chemin en terre de presque 2 kilomètres pour arriver à la maison. Donc déjà en prenant le chemin, je savais déjà que c'était le chemin vers chez nous. Et puis après, ça a mis plusieurs temps, le temps de s'installer, de rénover. On a essayé de faire un maximum de choses nous-mêmes avec nos petites mains. Mais en vivant, en étant en citadin, on n'avait pas beaucoup de compétences. On s'est rendu compte, en fait, de la limite aussi de tout ça. Donc, on a essayé d'apprendre nous-mêmes. On n'a pas tout refait de A à Z. On a refait ce qui était nécessaire. On a essayé justement, de pas jeter, de se dire, on va refaire, ce sera plus joli. On a essayé de garder un maximum. On a essayé de faire un maximum de récup aussi. Donc, de récupérer des choses dans les zones industrielles, des anciens matériaux de construction ou même des anciens meubles, d'essayer de trouver un maximum de choses comme ça, pour faire simple. Et après, au niveau énergétique, la maison était déjà bien conçue dans le sens où elle a une très grosse cuve de récupération d'eau de pluie. Donc, du coup, on capte les eaux de pluie. Petite anecdote, quand on s'est installé, ben, du coup, on est arrivé au fond de cette cuve. Donc, ça nous a poussé pendant plusieurs mois à descendre. On est entouré de rivières aussi, donc ça, c'est le côté bénéfique. À descendre à la rivière, du coup, pour faire la vaisselle, se laver. Donc, ça met déjà clairement en exergue l'aspect fondamental de l'eau qu'on se rend pas compte quand on ouvre le robinet. Mais quand on peut, voilà, c'est ça, c'est vraiment une expérience en le vivant, ça remet de l'importance vraiment sur l'eau. Donc, on fait très attention à l'eau. En même temps, on a planté une centaine de fruitiers. Donc, on essaye de prendre soin aussi du jardin forêt. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment, on essaye de faire, en fait, en permaculture, ce qu'on appelle un circuit fermé. C'est-à-dire, il y a un minimum d'entrants, donc de choses qu'on va acheter de l'extérieur et ramener, et un minimum de sortants, c'est-à-dire un minimum de choses qu'on va jeter et du coup sortir. On essaye de recycler, donc c'est aussi pour ça qu'on a les toilettes sèches à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, on essaye de faire un maximum dans ce sens-là. Et en même temps, on a toujours des améliorations potentielles. Donc, on est toujours en chemin.
Ouais, je trouve ça hyper impressionnant. Enfin, je sais que moi, ça m'avait vraiment marqué quand je suis arrivée. Je savais pas du tout concrètement. Enfin, je savais à quoi m'attendre, mais par exemple, j'étais pas au courant qu'il y avait des toilettes sèches. Je savais pas forcément que vous étiez pas reliée à l'eau courante, etc. Et du coup, ma première réaction, c'était oulala. Moi, je suis pas très aventurière. Comment je vais faire ça? Et en fait, c'était je me suis rendu compte que le confort était le même qu'à Paris. En plus, moi, j'étais en tant qu'invitée, donc c'est pas pareil. C'était vraiment le confort normal, quoi. Et du coup, je me suis vraiment dit, ah ouais, mais c'est un habitat assez éco-responsable. Et en fait, le confort est là. Donc finalement, pourquoi pas? Enfin, il n'y a pas vraiment d'excuse de pas aller vers ça, parce qu'on n'est pas obligé de retourner à une manière de
à la bougie.
Voilà, c'est ça, exactement.
Oui, tout à fait, c'est ça. Et en parlant d'habitat, justement, donc comme on t'avait du coup fait visiter, on a aussi construit donc un dôme géodésique, qui est donc une structure légère, en fait, qui est dans les habitats les plus éthiques, les plus écologiques, parce que ça demande le moins de matériaux possible. En même temps, c'est extrêmement solide, par exemple, dans les zones sismiques, etc. C'est quelque chose qu'on a construit en une semaine, qu'on peut déplacer, qui est extrêmement agréable. Donc nous, en fait, on est du coup dans ce dôme géodésique. La maison, elle sert en fait comme lieu d'accueil du coup pendant les stages, comme tu as pu vivre dedans, pour accueillir les groupes. Et puis nous, du coup, on est dans cette structure un petit peu plus loin, voilà. Donc c'est aussi pouvoir montrer une structure pour quelques milliers d'euros, tu peux vivre dans une 30 mètres carrés confortable aussi.
Ouais, ça amène à ma prochaine question, justement, qui est la question de l'aspect financier. Quand on veut avoir et développer un habitat éco-responsable, du coup, est-ce que ça nécessite de gros investissements? Est-ce que c'est accessible à tous? Parce que ça peut aussi être l'un des freins.
Bien sûr. En fait, ça dépend vraiment de ce que tu recherches, en fait. Si déjà tu notes, en fait, les besoins. Par exemple, nous, on avait besoin d'accueillir des groupes. Donc, c'est pas du tout la même chose que si on était parti vivre tout seul en famille au fond de la montagne. Donc, ça dépend vraiment de tes besoins. Donc, si on met en avant ces besoins, ensuite, on voit ce qui correspond à ces besoins. Et faire aussi avec l'existant. C'est-à-dire, évidemment, on a un projet en tête, mais ensuite, ce qu'on va trouver, ça sera complètement différent. Par exemple, évidemment, si on va être au bord d'une rivière, peut-être qu'on a moins d'ensoleillement. Si on est au sommet d'une montagne, on a plus d'ensoleillement, mais on n'a pas l'eau. Donc, il y a toujours des compromis, en fait, à faire en vivant sur le lieu. C'est aussi à ça que sert la permaculture, de faire un design, en fait, de faire avec le lieu, d'observer ce qui se passe sur un lieu et ensuite de faire des modifications. Dans les modifications, évidemment, ça peut aller en mode auto-construction récup à faire intervenir des corps de métiers différents dans différents tarifs. Dans les dômes géodésiques, les structures légères, donc comme je disais, c'est quelques milliers d'euros. Pour des lieux comme ça à la campagne, c'est par exemple ça, c'est l'équivalent en fait d'un studio. J'ai regardé juste avant, c'est l'équivalent d'un studio en fait à Paris. Okay. Donc on peut vivre dans un studio ou on peut se dire je choisis de vivre à la campagne. Comme tu le disais, c'est vrai qu'il y a 85% je crois des gens qui vivent en ville. Évidemment pour le travail, ça dépend évidemment de son activité aussi. Mais c'est quelque chose qu'on peut modifier quand on change de vie. Essayer de faire un maximum de choses soi-même. Et du coup, chercher aussi, par exemple, on n'est pas obligé de regarder les annonces immobilières directement, on peut aussi se promener en fait dans des régions, regarder sur le cadastre comme Géoportail, les numéros des parcelles et du coup contacter la mairie pour voir si peut-être cette parcelle est disponible, parfois elle n'est jamais utilisée. Donc c'est aussi une opportunité en fait d'acquérir des parcelles à moindre prix. Voilà. Mmh.
Ouais, non, mais c'est vraiment génial. Et pour le coup, pour le dôme géodésique que je connaissais pas du tout, et je trouve ça dommage que ce genre d'information et de savoir soit pas plus diffusé, parce que ça pourrait vraiment servir même pour de l'événementiel ou des choses comme ça qui sont très polluantes. C'est des systèmes tout simples qui existent depuis longtemps, je pense, dont on ne parle plus, dont on ne connaît plus vraiment l'existence, quoi. Un peu comme la permaculture, finalement, c'est plein de connaissances qu'on avait avant, qu'on a un
Ouais.
petit peu perdues et qu'on retrouve maintenant.
C'est ça, voilà, c'est un mélange de choses. Après, dans le dôme géodésique, il utilise justement la NASA, il l'utilise pour aller sur la Lune, parce que c'est
Ah
une
ouais,
structure justement ouais, très
génial.
solide. Bah, d'ailleurs, dans les voyages spatiaux, ils utilisent aussi le régime végétal. Donc, ça se recoupe, hein. Au final, c'est le plus efficace, on va dire, pour avoir un minimum d'espace. Qu'est-ce qu'on va transporter pour être en bonne santé et en même temps ben, avoir un taux d'impact minimal. Donc, le dôme, ouais, il se retrouve dans la NASA. Mais en même temps, il y a toutes les constructions en terre. En fait, la majorité sur terre, la majorité des constructions, par exemple, le Taj Mahal, il est en terre. Donc, les constructions, voilà, sont en terre. On a oublié, mais on peut construire de différentes façons. Et en même temps, on voit que le pôle construction, au niveau de l'écologie, c'est le troisième pôle. Le premier pôle, comme on l'a dit avant, c'était l'élevage. Mais pour l'événementiel, pour rebondir, il y a quand même des personnes qui font bah, du coup des événements, peut-être des événements plus alternatifs, mais ça commence à venir dans
Ouais.
des structures comme ça légères qui se déplacent. Donc c'est à nous aussi, bah, justement, dans différents. Si on travaille, je sais pas dans quel corps de métier, bah, on peut en fait amener des choses. On n'est pas obligé de quitter en fait, de tout fuir. On peut justement bah, rester en fait dans son corps de métier pour amener des choses différentes, plus conscientes, plus harmonieuses avec le vivant.
Et du coup, au quotidien, à quoi ressemble votre vie? Parce que pour le coup, c'est un rythme qui vous est propre et qui a rien à voir avec le rythme parisien, ça c'est sûr. Enfin, le fait de vivre déjà rien qu'à la campagne, c'est un autre rythme en plus complètement en lien dans la nature. Qu'est-ce que tu peux m'emmener dans une journée type?
Alors c'est toujours différent en fait parce que c'est vrai que l'été donc on accueille les stages d'avril à octobre donc on fait à peu près 2 stages par mois mais même si c'est juste un week-end comme on fait tout nous-mêmes on accueille vraiment les personnes chez nous on fait le ménage on fait la cuisine on fait voilà l'entretien de la maison l'animation du yoga etc donc ça prend quand même du temps et en même temps voilà on prend les choses tranquillement c'est vrai qu'en arrivant ici on s'est dit bon allez il faut finir la maison on va ouvrir mais en fait non en fait tu te rends compte que le rythme il est quand même différent donc on a un rythme beaucoup plus calme si les choses se font pas forcément c'est pas grave en fait voilà on a vu aussi que les gens sont très cléments sont très contents en fait en venant dans un endroit simple et en même temps confortable. Donc, on dédie vraiment l'été pour justement accueillir des personnes, partager ça un maximum. Ça nous demande pas mal d'énergie. On a aussi une petite fille, donc du coup, on s'occupe d'elle le plus possible. Journée type, ben, c'est indépendant des. En fait, ça dépend beaucoup du temps. Voilà, par exemple, en ce moment, c'est caniculaire. Clairement, il pleut pas. On doit beaucoup arroser. Donc, on a une centaine de fruitiers qu'on arrose donc au tuyau. Donc, ça prend quand même plusieurs jours. Donc, on s'occupe des fruitiers. Le lieu, il y a toujours des choses à faire, à entretenir, à améliorer. Donc, il y a des personnes qui nous contactent aussi pour venir. Donc, c'est être en lien aussi, essayer de faire un petit peu de communication, parce que c'est vrai que du coup, on vit ici, mais en fait, on a besoin d'une fenêtre ouverte sur le monde. Donc, en fait, ben, être présent sur Facebook, maintenir à jour le site internet, faire des newsletters, rédiger des articles, faire des choses comme ça. Donc en fait, voilà, il y a tout ça. Il y a nos petits loulous aussi. Donc on a les Pacha et Skiki, voilà, qui sont nos chiens qui sont sur le lieu. Les chevaux, comme on t'avait expliqué, qu'on a mis dans un autre sanctuaire suite à donc on a eu la tempête Alex. Ils sont dans un autre sanctuaire vegan aussi d'ailleurs, avec une dame qui s'en occupe super bien. Et voilà, simplement vivre aussi, prendre du temps pour soi, pratiquer, contempler, aimer, partager. Donc, voilà, tout ça. L'hiver, c'est un petit peu plus calme, mais en même temps, on fait au rythme. Voilà, il y a des fois, parfois, il neige pas souvent, mais quand il neige, bon, ben, on est bloqué, mais c'est pas grave, on reste à la maison. Donc, c'est aussi au fur et à mesure de ce qui se passe à l'extérieur. Après, c'est vrai que comme notre petite fille, elle est sa première année d'école, bah, ça nous
Ouais,
a amené à sortir davantage tous les
forcément.
jours, forcément. Voilà, avant, on sortait moins. Et là, bon, du coup, donc, c'est un autre rythme. Voilà, on se met aussi à son rythme à elle. Et voilà.
Et j'ai une autre question, c'est par rapport, quel est ton rapport à l'argent? Je pose cette question parce que forcément, dans nos sociétés actuelles, l'argent, c'est un peu ce qui domine tout, même quand, par exemple, les entreprises qui sont engagées, qui sont éco-responsables, bah, forcément, il faut quand même faire du profit pour que ça fonctionne. Y a toujours cette question qui revient, même quand on se dit « ah oui, j'aimerais bien vivre différemment, j'ai ce projet que j'aimerais beaucoup faire, mais financièrement, il faut quand même que je gère, etc. » Vous, comment vous voyez, quel est ton rapport à l'argent par rapport à ça? Parce que vous avez une façon de vivre un peu différente. Comment ça affecte ton quotidien?
Bah en fait, l'argent, c'est un peu, je le vois comme une énergie en fait qui circule, qui est nécessaire en fait pour échanger des choses. Mais disons que on peut l'utiliser de différentes façons. En fait, ce qu'on a fait, c'est tout simplement écrire nos besoins. Encore une fois, on revient aux besoins fondamentaux, donc c'est-à-dire manger, se nourrir, se loger, toutes les choses. Et toutes les choses annexes aussi, se déplacer, se faire plaisir, les choses qui nous font plaisir, qu'on a envie de s'acheter aussi. Noter en fait toutes ces choses pour avoir un petit peu visuellement ce qu'on a besoin de faire pour atteindre ce chiffre, sans forcément s'enrichir, mais simplement vivre et pouvoir répondre à ses besoins. Donc, du coup, c'est simplement une question de calcul. Noter ces choses-là, comment on vit à 3 ou à 5, à 6. Et ensuite, quel travail on doit faire ou comment est-ce qu'on peut échanger aussi. Quand on vit à la campagne, on peut aussi faire des systèmes d'échange, en fait. Une fois, toi, tu viens travailler sur le lieu. Une fois, moi, je viens travailler sur ton lieu. Il y a des systèmes, il y a plein de systèmes parallèles qui existent. Mais en même temps, l'argent, c'est aussi nécessaire pour continuer à faire vivre ce projet. C'est aussi, ça fait vivre l'association, ça permet de faire manger les chevaux. Ça permet d'acheter des fruitiers quand on les fait pas soi-même. Il y a des choses qui sont nécessaires et donc on l'utilise dans ce but-là pour pouvoir vivre notre rêve en fait. Dans le but de partager, pour que ce lieu existe, on en a besoin et du coup les personnes viennent et en même temps partagent ça. Voilà.
Oui, c'est sûr. C'est vrai que l'argent, souvent, on le voit comme quelque chose qui bloque, mais en réalité, dès qu'on lâche un petit peu prise dessus et qu'on met aussi les moyens, mais les choses se font assez assez naturellement, quoi. C'est vraiment, souvent, l'argent, c'est vraiment un stress. Et en fait, on arrive toujours à s'en sortir. Et j'ai l'impression que si on lâche prise un peu là-dessus, les choses se font de manière plus fluide et on arrive toujours à trouver un moyen de vivre correctement, quoi.
Voilà, ça dépend, encore une fois, ça dépend de chacun, ça dépend de ses besoins, dépend de, est-ce qu'on peut, s'il y a un jour, on perd tout, comment est-ce qu'on va le vivre, etc. Enfin, c'est des questions aussi à se poser. Et au final, quand on retourne vers les valeurs du yoga, on voit que ça rejoint, qu'une des valeurs fondatrices, c'est la non-possession. Donc, au final, certaines personnes vivent en ayant renoncé. Donc, sans aller jusque-là, évidemment, mais sur ce chemin-là, en essayant de vivre dans un maximum de simplicité, sans pour autant se restreindre et être mal, du coup, être quand même, pouvoir être joyeux et heureux sur ce chemin.
Oui, bien sûr. Et comment est-ce que tu vois l'avenir? Parce que quand je rencontre des personnes comme toi, c'est hyper inspirant, ça donne vraiment de l'espoir quand je vois des super initiatives. On voit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se mettent en place, des gens qui commencent vraiment à enclencher un changement, etc., par rapport à la transition écologique notamment. Mais en même temps, derrière, tu vois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui bloquent et on se dit « Ouh là là, est-ce que c'est pas trop tard ?» etc. Toi, comment t'envisages les choses? Comment tu les vois?
Je pense que c'est jamais trop tard parce que c'est vrai que ce qui est important, vraiment, le message aussi clair de Chival, c'est vraiment l'espoir. C'est-à-dire se dire, clairement, il y a des choses qui vont pas. Il y a aussi beaucoup de choses qui vont et on peut aller dans ce sens-là. Et même si on se sent parfois désemparé, on sait pas trop par où aller. En fait, c'est une chose à la fois, un jour à la fois. Mais c'est vraiment essayer d'amener de la clarté là-dedans, en fait. Se dire, quelles sont mes compétences déjà? Dans quoi je suis bonne? Qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je peux apporter ces compétences? Et ensuite, du coup, le faire. Mais évidemment que ça peut amener différents obstacles, etc. Mais c'est une question d'un jour à la fois et en même temps avoir cette vision à long terme. Se dire, moi, en fait, je marche dans cette direction. Et je peux marcher seule, mais en fait, en marchant seule sur ce chemin, je vais probablement rencontrer d'autres gens aussi sur ce chemin. Et du coup, je peux me rapprocher d'eux. Et si ça se trouve, on peut faire des choses en commun. Et c'est aussi là de passer du coup du niveau individuel au niveau collectif. sans forcément créer un écolieu ou quoi que ce soit, mais simplement en marchant vers ce chemin, on se rend compte, en se documentant, qu'il y a des solutions collectives, individuelles pour marcher vers davantage d'harmonie. C'est pas qu'on va sauver le monde direct en un jour, mais en tout cas, on fait ce qui est possible. Et au niveau de l'avenir, forcément, en gardant cette vision quand même d'espoir, on peut mettre ces actions dans le concret. Et de notre côté, par exemple, on a envie de poursuivre les stages, peut-être d'en faire un petit peu aussi l'hiver pour partager aussi le lieu dans différentes conditions. On aimerait bien faire des formations aussi de yoga, justement, en fait, pour partager, mais ça, c'est vraiment dans le plus long terme. Hein,
ouais.
Puisque c'est ensuite les enseignantes de yoga qui vont ensuite partager, en fait, la richesse du yoga. Donc, on aimerait beaucoup aussi pouvoir participer à ça, en fait. Des formations, diffuser aussi sur Internet, parce que c'est vrai que on le voit aujourd'hui, hein, c'est une chose de vivre d'une façon, mais c'est autre chose de le partager. Donc je pense que ça peut aussi inspirer, évidemment pas tout le monde, hein, mais certaines personnes en tout cas à le voir et de se dire je vais tenter, donner des astuces. On travaille aussi sur justement une page ressource en fait avec toutes les infos, tous les liens. Pour avoir vraiment les choses très concrètes, comment on fait pour faire une phytoépuration, comment on essaie, vraiment toutes les manières les plus efficaces. Donc ça, on travaille dessus depuis un moment et on espère vous le partager bientôt.
Bah oui, ça c'est vraiment génial et pour le coup, oui, c'est important et c'est vrai que c'est important de partager et d'inspirer les gens parce que souvent, avant d'en entendre parler, on ne sait pas vraiment que c'est possible, on ne sait pas forcément poser les questions. Et de découvrir des initiatives comme ça, ça sème un petit peu des graines. On se dit « Ah oui, tiens, c'est vrai que c'est possible. » Et ça nous questionne aussi sur soi. Est-ce que ma vie me va en ce moment ou pas? Est-ce que ça m'attirait d'intégrer ça dans mon mode de vie, etc. C'est pour ça aussi que j'ai voulu faire le podcast, justement pour aller à la rencontre de personnes qui font les choses un peu différemment et pour me donner des idées sur super. Des sujets que je maîtrise pas forcément encore. Donc, ouais, c'est cool.
J'écouterai les autres podcasts, en tout cas. Ça m'intéresse aussi.
Oui, merci. Alors, j'ai une question qui est un peu différente, un peu plus d'introspection. Si tu pouvais te retrouver devant la petite Marie enfant, qu'est-ce que tu lui dirais au vu du parcours que tu as effectué jusque-là? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire?
Écoute, je lui dirais, le premier truc qui m'est venu, c'est vraiment la confiance. C'est de se dire, en fait, aie confiance. Ça va aller, il y aura des moments plus faciles que d'autres, des moments plus difficiles, mais en fait garde la confiance et continue à te laisser guider vraiment par cette intuition, en fait cette voix intérieure, de pas la camoufler, de la laisser s'exprimer même si elle est en désaccord avec l'extérieur, que ce soit avec sa famille ou son entourage ou la société. Si elle est en désaccord, oser en fait, voilà, oser parler en fait, oser exprimer ce qu'on ressent et avoir confiance. Je dirais ça.
Et justement, l'intuition, toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours su écouter et tu as toujours entendu ou c'est quelque chose que tu as développé au fur et à mesure?
Non, pas du tout. Je pense que, je suis toujours sur le chemin, hein, évidemment, mais à la base, je pense que j'étais beaucoup plus dépendante de l'avis des personnes autour de moi. J'avais besoin un petit peu de cet aval, en fait, de me sentir soutenue dans les décisions que je prenais. Sinon, ça m'affectait et c'est vrai que le yoga, ça m'a permis en fait de me détacher de ça et du coup, de me rattacher en fait vers plus ma voix intérieure qu'on peut appeler l'intuition ou la plus belle partie de soi ou peu importe. Et du coup, en suivant cette voie, ça m'a amené sur un chemin complètement différent vers lequel j'étais destinée. Donc au final, et pourtant, voilà, aujourd'hui, je suis très heureuse là-dedans, malgré le fait que j'ai dû à un moment donné oser exprimer qui j'étais. Et en même temps, ça a été très bénéfique puisque je me sens aujourd'hui là où je suis censée être. Donc, pour l'instant, mais en même temps, je dis ça, c'est dans le moment présent. Si ça se trouve, demain, ce sera différent. C'est pas quelque chose d'acquis. C'est pas quelque chose d'acquis. Donc, je continue à apprendre à apprivoiser en fait cette voie et à surfer un peu sur la vague de ces ressentis-là.
C'est super intéressant. Je te pose la question parce que c'est vrai que l'intuition, c'est un truc qui me questionne beaucoup. parce que c'est vrai que c'est pas évident quand même de faire la distinction entre le mental, l'intuition, surtout par rapport à l'extérieur, mais même à soi-même, parce que souvent l'intuition, elle nous dit justement de faire des choses, qui sortent un peu de notre zone de confort. Des fois, c'est vraiment une direction qui a rien à voir. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand tu la suis, tu te rends compte que ça amène à des trucs super, donc ça vaut le coup de se reconnecter à ça. Clairement.
C'est ça. Oui, ou au moins essayer en tout cas. Tâtonner,
ouais, voilà. Oui, exact. Alors, j'ai une dernière question, il me semble, oui. Est-ce que tu pourrais me partager des livres ou des films, des documentaires qui t'ont inspiré, que ce soit sur l'écologie, le véganisme ou le yoga, que tu aimerais partager aux auditeurs?
Bah écoute, le documentaire le plus frappant, hein, qui m'a clairement, ma plus grosse prise de conscience, c'était donc Gary Yourofsky, donc le discours le plus important de votre vie. Après, dans les livres, il y a Siddhartha, et il y a aussi Yoga et végétarisme, en fait, mais il est en anglais malheureusement. Donc okay. C'est de Jivamukti Yoga, en fait c'est la on va dire une des seules vraiment enseignantes qui fait le pont entre le yoga et le véganisme, mais un pont très clair en fait. C'est très factuel, c'est très intéressant du coup. Donc Yoga et végétarisme ça s'appelle. Ensuite je pourrais te donner référence des livres, autant des livres et des documentaires. Donc ça, si tu veux, je peux te le donner, pour qu'il y ait un peu plus de choix. Mais on va dire, si j'en ai un à choisir, c'est Gary Yourofsky, best speech.
Ouais. Merci beaucoup. Voilà. Ouais, je mettrai la liste en description.
Clairement. Ça marche. Ok, moi, je t'en enverrai.
Bon, c'est tout pour moi. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait sur quoi on peut te retrouver? Je sais que tu as une page Instagram, il y a aussi le site.
Oui, Instagram, c'est vrai que j'ai un petit peu lâché parce que j'ai dû choisir dans les plateformes. Bon, il y a Facebook, voilà, donc Facebook, okay. Cheval, yoga, permaculture et animaux. Sinon, il y a le site, donc cheval.fr, donc c'est comme cheval avec un i. Dans la rubrique agenda, il y a tous les événements si vous voulez venir nous rencontrer sur place. Donc, c'est ça qu'on propose. Et puis à terme, davantage de choses virtuelles mais qui ne sont pas encore manifestées. Donc, je te les partagerai par la suite.
Ok.
Mais en tout cas, voilà, page Facebook. Voilà. Grand merci à toi, Nour.
C'était très intéressant, vraiment super. Merci.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Je serais très heureuse d'avoir votre avis ou vos suggestions. Alors n'hésitez pas à me contacter via mon compte Instagram enquête-de-soi.podcast. En attendant la sortie du prochain épisode, prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain.